OK, ça fait qu'on va commencer. C'est notre neuvième leçon. On est rendu au paragraphe 3 du chapitre 2. Donc, on est ceux qui ont l'ont en main. Vous pouvez suivre. Donc, cette semaine, on va regarder la Sainte Trinité. On va regarder trois choses à l'intérieur de cette doctrine-là. Donc, la triunité de Dieu, on pourrait dire. On peut dire trinité ou on peut dire triunité. On va regarder trois points ce matin. On va diviser la leçon en trois points. La première, c'est son affirmation. On va commencer par définir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas. Ensuite, on va expliquer un peu autant, aussi loin qu'on peut aller. Et la troisième chose, on va regarder sa pertinence. Le troisième point, je dirais, qui est d'une importance capitale, parce qu'on va voir que si on fait une erreur sur cette doctrine-là, c'est une erreur qui peut aller, qui peut avoir une influence sur votre destinée éternelle. Alors, c'est pas une conséquence minime, là. C'est une conséquence extrêmement importante, extrêmement grave. Alors, on va regarder ça un petit peu en détail. Alors, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la doctrine de la Trinité, c'est toute une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Historiquement, si quelqu'un prend la peine de regarder historiquement l'histoire de l'Église et le développement de la théologie, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est une doctrine qui a été très violemment attaquée par le malin, par Satan. Pourquoi? Parce que, vu que c'est le fondement de la vie chrétienne, si tu réussis à détruire le fondement, tout le reste va s'écrouler. Alors, historiquement, Satan et ses serviteurs, au cours de l'histoire, ont amené une multitude d'hérésies sur cela. On va regarder tantôt, on va regarder les principales, mais on ne peut pas aller dans les détails, parce que si on regarde dans les détails, là, c'est des briques et des gros volumes qu'il faudra regarder. Mais au moins, on est conscient que les principales erreurs qui ont été amenées dans l'histoire continuent d'être encore enseigné de nos jours, dont les Mormons, dont les témoins de Jéhovah. À quelque part, ce que les ennemis de Dieu enseignent, ça a encore une influence autour de nous, même ici dans une ville comme Lac-Mégantic. Alors, il ne faut pas penser que c'est des affaires, « Ah, on sait ça, ça fait longtemps. » Peut-être que tu ne sais pas tant que ça. Alors, c'est peut-être une bonne chose qu'on revise un peu tout ça. Alors, ce travail-là de l'ennemi, au cours de l'histoire, a produit un très grand nombre d'hérésies qui ont mené dans l'enfer éternel ceux qui ont persévéré dans leurs erreurs idolâtres et blasphèmes. C'est des blasphèmes, dans le fond. C'est des erreurs idolâtres. Alors, quand on étudie cette doctrine-là, on se doit de se rappeler que c'est l'un des mystères les plus profonds des Saintes Écritures, parce qu'elle transcende la raison. Qu'est-ce qu'on veut dire par transcender la raison? Au-dessus de la raison. Si je dis, il y a les trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont toutes pleinement Dieu, puis il y a juste un Dieu. Ça ne marche pas dans notre tête, hein? On se dit, un, trois, enfin un. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. On a de la difficulté à comprendre et on ne peut la comprendre que par la foi. On le croit sans nécessairement être capable d'expliquer qu'est-ce que c'est exactement. C'est un peu ça là, qu'on est en train de faire ce matin. Donc, ça transcende la raison humaine, c'est au-dessus de la raison. Parce que notre raison, pourquoi les témoins de Jéhovah ont du succès? C'est parce qu'ils amènent les gens à raisonner avec leur tête. Voyons, il y a trois personnes, ça ne peut pas que ça fasse juste une. Alors là, si tu cèdes à ça, bien tu viens juste d'évacuer une des doctrines les plus importantes des Écritures et qui, si tu ne la maintiens pas jusqu'au bout, ça peut t'emmener en enfer. Donc, et ça contredit aussi la sagesse charnelle. La chair n'est pas capable d'accepter une affaire comme ça. C'est la foi. Dieu le dit dans les Écritures et on rassemble tous les versets et on ne peut pas faire autrement que dire « Oui, Seigneur, puisque tu dis, on croit que c'est vrai. » Même si on n'est pas capable de l'expliquer, même si on ne le comprend pas pleinement. On ne le comprendra jamais de toute façon pleinement. Alors, cette glorieuse doctrine, on ne la comprendra ni sur la terre, ni dans le ciel. Bizarre à dire, hein? Même dans le ciel, on ne comprendra jamais pleinement la doctrine de la Trinité parce qu'on est des êtres finis et même rendus au ciel, on va être encore finis et on va être en train de découvrir un être infini. Donc, par définition, la découverte de Dieu va se faire durant toute l'éternité. Alors, comme beaucoup d'autres articles de notre foi, nous devons rester humbles et accepter que cette doctrine soit insondable. Qu'est-ce qu'on veut dire par doctrine insondable? On veut dire tout simplement compréhensible de façon limitée. On ne dit pas qu'on ne peut rien comprendre de la doctrine de la Trinité, on dit seulement qu'on peut la comprendre partiellement. Et si on la comprend partiellement, il faut garder l'ensemble de tous les versets des Écritures qui nous parlent de ce même sujet-là de la Trinité. Alors, on le comprend avec ce que les Écritures nous disent, mais ça nous donne une compréhension qui est partielle. Dans son ouvrage, je suis allé chercher ça dans des différents volumes, là, des choses intéressantes qu'ils ont dit sur la Trinité. Dans son ouvrage qui s'appelle « Christian Theology », le théologien Millard J. Erickson conclut son étude sur la Trinité, la dernière phrase qu'il dit, là, voici c'est ce qu'il dit. Je vais vous la donner en anglais, elle est très courte, après ça je vous la traduirai. « Try to explain it, and you will lose your mind, but try to deny it, and you will lose your soul. » Traduction libre. « Essayez de l'expliquer, et vous perdrez l'esprit, mais essayez de la nier, vous perdrez votre âme. » Alors on voit l'importance, nier la Trinité, c'est grave au point que ça peut affecter ta destinée éternelle. Alors, on ne rit pas avec une doctrine comme cela. Alors, ce qu'on va faire, on va relire un petit peu la confession de foi dans le paragraphe 3 du chapitre 2. On va la lire ensemble et après, on va y aller par petits morceaux, on va la diviser. Parce que c'est long, c'est un chapitre qui est quand même assez long. Et si on pense qu'on a lu ça et qu'on a tout compris, là, ben, vous êtes mieux que moi. Vous allez voir que ça amène des difficultés de compréhension, mais qu'on a besoin de s'arrêter pour expliquer un petit peu plus. Je vais la lire dans sa globalité, et après, ce qu'on va faire, on va prendre petite section par petite section, et on va essayer de la développer. Alors, ça dit dans l'article 3 du chapitre 2, « Dans cet être divin, ça parle de Dieu, bien entendu, dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole ou le Fils, et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant, l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Alors, quand vous regardez les petits numéros qu'il y a dans... Là, vous allez... Les versets sont tous marqués. Là, quand vous voyez, disons, 27, vous voyez tous les versets qu'ils utilisent pour démontrer la vérité de ce qu'ils ont. Alors, c'est un groupe de pasteurs qui se sont réunis et ont réfléchi, beaucoup réfléchi ensemble, pour exprimer une vérité en essayant de dire l'essentiel et de rester scripturaire. Moi, je trouve que la force d'une confession de foi, c'est justement de faire ça. Alors, on va commencer par le premier point qu'on a dit, l'affirmation de la triunité de Dieu. Donc, les trois personnes sont unies. Ça dit, dans la première partie, on va y aller par petites sections, là, dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole ou le Fils et l'Esprit Saint. Alors, les Écritures nous enseignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je pense qu'on n'apprend rien ici ce matin en disant ça, mais qu'il y a trois personnes en Dieu. À quelque part, si vous êtes capable de m'expliquer ça, venez en avant, je vous invite. Personne n'est capable de le faire. Les Écritures ne nous expliquent pas tout le contenu de tout ça. Ils font simplement l'affirmer. Ce n'est pas la même chose. Ils l'affirment et ils disent toutes sortes de choses, mais là-dessus, moi je pense que la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas donné des explications là-dessus, c'est parce que ça dépasse notre capacité. Prenez un enfant de 3 ans, par exemple. Puis essayer d'y expliquer, par exemple, la doctrine de la... Pas la doctrine, mais la Einstein, qui a la chose de la relativité. Moi, j'ai déjà essayé de lire un livre sur ça, là, Einstein, puis il m'a dit une affaire qui me perd, c'est pas trop long. Alors, un enfant de 3 ans t'essaierait d'expliquer la doctrine, pas la doctrine, mais l'affaire de tu comprendras rien. Il comprendra rien parce que c'est hors de sa portée. Alors, je pense que la doctrine de la Trinité, c'est justement la même chose pour nous. C'est hors de notre portée. Il nous a dit l'essentiel. Ça, c'est important, faut que tu crois ça. Mais essaie pas d'aller plus loin que ça, tu seras pas capable. Ça dépasse ta capacité de compréhension. Alors, l'Écriture enseigne très clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les trois personnes de la Trinité, non seulement partagent un même but et une même pensée, mais elles sont une en essence. Alors, la parole dit, le Fils est pleinement Dieu, Jésus-Christ est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu, et Dieu le Père est pleinement Dieu. Alors, tout ce reportage dit, s'il est pleinement Dieu, comment ça se fait que tu dis qu'il n'y a rien qu'une personne en Dieu? C'est justement là le mystère. Alors, quand on parle d'essence, là, on ne parle pas de mettre du gaz, du fuel. L'essence de Dieu, c'est sa nature, la nature même de Dieu. Qui est Dieu? On essaie de rentrer là-dedans, qui est Dieu? Comme je vous ai dit tantôt, on ne peut pas le définir à part de ce qu'il nous est dit dans les Écritures sur cette terre. Et même quand on va être rendu au ciel, on va continuer à le découvrir pour l'éternité. Ça nous donne-tu une idée à quel point il est grand? À quelque part, c'est là qu'il faut saisir cela et accepter la doctrine par la foi, tout simplement. Alors, autrement dit, Dieu n'est qu'un seul être. Dieu le Père est pleinement Dieu, Dieu le Fils est pleinement Dieu, Dieu le Saint-Esprit est pleinement Dieu, mais il n'y a rien qu'un Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Les témoins de Jéhovah, quand ils rentrent à quelque part, ils vont souvent attaquer. La première chose qu'ils vont attaquer quand ils vont rencontrer quelqu'un, c'est la doctrine de la Trinité. Ils vont essayer de démontrer que c'est pas possible, que tu es d'impétate. Puis là, ils vont prendre des versets qui disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ben oui, mais il y a d'autres versets qui disent que Jésus-Christ est Dieu, d'autres versets qui disent que le Saint-Esprit est Dieu, puis d'autres versets qui disent que le Père est Dieu. Alors, pleinement Dieu. Alors, tu dis, ils sont pleinement Dieu, mais il n'y a rien qu'un Dieu. Tu as de la misère à saisir un petit peu. Dans 1 Jean, au verset 1 Jean, chapitre 5, verset 7, ça dit, « Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont qu'un. » Matthieu 28, verset 19, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. » Il y a trois choses là-dedans. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, donc on parle d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. La communication du Saint-Esprit, on parle d'une autre personne. Et l'amour de Dieu. Il y a trois choses, donc à quelque part, soient avec vous tous, à quelque part. Et on continue un petit peu une autre petite section, là, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant, l'essence n'est pas divisée. C'est ça qui est difficile à comprendre. Puis tu dis qu'il y a tous les attributs, Jésus-Christ a tous les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit a tous les attributs de Dieu. Le Père a tous les attributs de Dieu, du Père. Et à quelque part, cette essence-là, ils l'ont pleinement, mais ils ne sont pas divisés. C'est ça qui est difficile à saisir. Alors, Jésus, quand il est venu, il a dit, croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres mêmes. Il y a un petit diagramme qu'on trouve souvent, on peut le trouver sur Internet en anglais. Je l'ai trouvé sur le site de Pascal. Il l'a fait en français, il l'a traduit en français. Alors, tout simplement, le site, il met Dieu au centre, comme un rond qui est au centre, ça dit ça, c'est Dieu. Après ça, ça dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Et quelque part, il faut avoir ce petit diagramme-là pour à un moment donné commencer à réfléchir un petit peu sur ces choses-là. Maintenant, on dit qu'ils sont un. Donc, il y a un Dieu. Mais aussi, il y a des distinctions. La confession de foi l'exprime comme ça. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père et l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Alors, si on regarde Jean chapitre 1, verset 14 et verset 14. Et la parole a été faite chair et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et Jésus dit dans Jean 15, verset 26, « Lorsque sera venu le Consolateur, de qui il parle? » Il parle du Saint-Esprit. « Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. » Voyez-vous, les mots utilisés même dans l'expression de la doctrine de la confession de foi sont utilisés. « Procédé du Père, et il rendra témoignage de moi. » Et Galates, chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba au Père. » Donc, les Saintes Écritures sont riches pour illustrer le fait que les trois personnes ou subsistances... Et là, quand vous rentrez dans les livres de théologie, il y en a qui disent qu'on ne devrait pas utiliser le mot « personne » parce qu'une personne, ça fait référence à des choses humaines. On est habitué, nous autres, quand on parle d'une personne, ça a une certaine caractéristique. Il y en a qui préfèrent le mot « subsistance », qui veut dire « qui existe en soi ». Ben là, je ne veux pas rentrer dans ces discussions-là, mais c'est rien que pour dire que des fois, les mots qu'on utilise pour expliquer quelque chose en théologie, ça fait appel à toutes sortes de références qu'on a dans la tête. Alors, on a dit Matthieu 28, verset 19, « Allez donc instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, s'il nous demande de les baptiser par trois personnes, c'est parce qu'il y a trois personnes. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien qu'un, mais là, il nous demande de le baptiser en trois, avec trois individus, trois personnes. Luc 1, verset 35, et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 2, verset 21-22, « Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jean fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Alors, on a dans le même verset, il y a le Dieu le Père, il y a le Saint-Esprit, et il y a le Fils. Alors, les trois personnes sont là. Tite, chapitre 3, verset 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors on continue une autre petite section. Comme je vous ai dit, on prend petite section par petite section du chapitre de l'article 3. Les trois, ça dit les trois, sont infinis. Donc, le Père est infini, le Fils est infini, le Saint-Esprit est infini. Sans commencement, vous allez voir que pourquoi il y a eu des erreurs sur la Trinité, c'est parce qu'il y en a qui ont dit que Jésus-Christ a eu un commencement. S'il est éternel, il n'a pas eu de commencement. Alors, on va vous donner un petit truc tantôt pour garder votre orthodoxie, autrement dit, pour voir un truc pour vérifier si vous êtes orthodoxe dans votre compréhension de la Trinité. Et ça dit, les trois sont infinis sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué. Alors, voyez-vous, il y a quelque chose de pareil, puis il y a quelque chose de différent. Mais distingués selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. Moi, il y a un truc que j'ai appris quand j'étais à l'école biblique, qui est, je ne l'ai jamais oublié. Et quand on a ce petit truc-là dans l'esprit, là, toute fausseté sur la doctrine de la Trinité, vous allez pouvoir la détruire juste avec ces trois choses-là. Moi, je l'appelle, j'ai appelé ça le truc des trois co-e. Alors, je vais vous dire, trois, il y en a trois, co, ça veut dire, puis e, vous allez voir pourquoi je dis trois co-e. Retenez le truc des trois co-e. Les trois personnes de la Trinité sont co-éternelles. Ça commence par e, co-e, co-éternelles. Donc, à quelque part, quand quelqu'un vient dire que Jésus a eu un commencement et qu'il n'était pas dans l'éternité avec le Père, il est en train de nier cette partie-là. Donc, les trois personnes de la Trinité sont co-éternelles, co-essentielles, ont la même essence, la même nature. Donc, s'ils ont la même nature, chacun des attributs de Dieu, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, ils ont tous. Et l'autre, c'est co-égal. Alors, encore là, il y a eu des erreurs au cours de l'histoire qui disaient qu'ils prenaient des versets des Écritures pour dire, quand Jésus dit « Personne ne le sait sinon mon Père », là, ils disent « Bien, comment il est inférieur au Père s'il ne sait pas ce que le Père sait ?» Alors, il faut vraiment aller dans ces versets-là, les expliquer comme du monde, parce que ça peut nous emmener à des hérésies vraiment importantes. Alors, sont importantes, retenez-les. Les trois co-e, co-éternel, co-essentiel et co-égal, sont égales entre elles. Toutes les hérésies qui ont eu lieu concernant la Trinité viennent soit de la mauvaise compréhension de ces trois choses-là, soit qu'il y ait confusion dans l'une de ces trois choses-là, ou soit qu'il y ait négligence. Si tu dis, par exemple, que Jésus a commencé sa divinité lorsque Dieu le Père a permis qu'il vienne sur la terre, t'es dans l'hérésie. Mais il y en a qui enseignent ça. Et à quelque part, c'est pour ça que c'est important de bien... C'est ce petit trois co-e, là, gardez-le à l'esprit. Puis dès que vous allez voir quelqu'un va vous enseigner une fausseté, si vous vous en souvenez puis vous les remontez à la mémoire, vous allez voir, ça va détruire automatiquement. C'est un truc facile à retenir. On va maintenant examiner quatre grandes hérésies qui concernent la Trinité. La première, c'est le polythéisme. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit polythéisme? Poly, ça veut dire plusieurs. Théisme, plusieurs dieux. La doctrine de la Trinité vient démontrer qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et aujourd'hui, on est rendu à l'heure où la papauté et l'ensemble des chrétiens qui ne font pas attention à ce qui est écrit vont dire que toutes les religions sont égales, mais à quelque part, il faut qu'ils expliquent le verset suivant. Ils ne sont pas capables. Acte 4, verset 12. « Et il n'y a de salut en aucun autre. » De qui il parle dans le contexte, on parle de Jésus. « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Où je crois ce que les Écritures disent, où je crois ce que les hommes disent. Si je crois ce que les hommes disent, ben ça va enseigner que toutes les religions mènent à Dieu. Et ce n'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent qu'il n'y a qu'un seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés, et c'est Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais à quelque part, aujourd'hui, on est rendu à une époque... Moi, je comprends l'idée de vouloir que tout le monde aille au ciel. Ça, cette idée-là, je suis loin d'être contre. J'aimerais bien que tout le monde aille au ciel. Mais le Seigneur le dit, il n'y a qu'un chemin, une seule porte. Il est la porte. Et si tu n'entres pas par lui, tu n'entreras pas du tout. C'est pas compliqué. Donc, première erreur qui a été enseignée dans le cours de l'histoire, c'est qu'il y a trois dieux. Le polythéiste, pas qu'il y a trois dieux, mais qu'il y a plusieurs dieux. Que tous ces dieux-là mènent au ciel, à ton salut éternel. Le deuxième, c'est le trithéisme. Tri, ça le dit, trois. Donc, il y a trois dieux. C'est qu'ils sont en train de dire qu'il y a trois dieux. Alors, cette hérésie affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois êtres totalement distincts. Donc, ils ne sont pas unis par l'essence, là. Quelque part, ils sont totalement distincts. Qu'est-ce qui fait la promotion de ça, aujourd'hui? Les Mormons. Dans toutes les grandes villes que j'ai été, là, Sherbrooke, Québec, Montréal, il arrive deux petits bonhommes qui sont bien habillés, ou deux petites bonnes femmes, ils appellent des missionnaires, ils viennent pendant... Ils prennent 2 ans de leur vie qui donnent à la religion mormone pour distribuer, passer porte à porte et commencer à parler aux gens. Mais il y a quelque part une chose qu'on ne comprend pas, les Mormons n'enseignent pas les choses bibliques. Ils enseignent qu'il y a 3 dieux. Et c'est pas moi qui l'invente, là. Je dis pas ça à travers mon chapeau. Je dis que voici dans leurs articles de foi, James Talmadge, qui est un de leurs leaders, qui est dans une de leurs brochures qu'ils ont écrites à Salt Lake City, en 1962, au chapitre 2, la page 45 et 46, voici ce qu'ils disent. Ils parlent de Dieu, là. Ils disent « Les trois sont des individus séparés physiquement, distincts l'un de l'autre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas un en substance et un en personne. » Est-ce que les trois petits trucs, là, est-ce que ça peut permettre de détruire ça? Oui, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas un en substance. Alors qu'on vient de dire, nous, qu'ils sont un en substance. Eux, ils disent que c'est 3 êtres différents, 3 dieux. Donc, les Mormons enseignent qu'il y a 3 dieux. C'est pas ce qu'on enseigne. Alors, leur unité, leur but d'opération, comme ils disent, fait que leurs décrets sont communs et que leur volonté est la volonté de Dieu. Une autre forme, cela c'est les témoins de Jéhovah, qu'on appelle le modalisme. Autrement dit, ils disent, oui, il y a eu 3 personnes, il y a eu le Père, il y a eu le Fils, il y a eu le Saint-Esprit, mais ça correspond à des modes d'existence qui ont changé à travers l'histoire. Voici, ils vont dire, par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu est apparu comme Père. Tout au long des Évangiles, cette même personne divine est apparue comme le Fils. Et après la Pentecôte, cette même personne s'est révélée comme l'Esprit agissant dans l'Église. Autrement dit, ils disent, oui, il y a juste un Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était le Père. Dans le Nouveau Testament, c'est, oui, Dieu, mais là, il n'est plus au ciel. Là, il descend sur terre et il s'occupe des choses terrestres. Puis après la Pentecôte, là, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Donc, oui, ils disent qu'il y a mais ils disent que Dieu existe sous 3 modes différents. Dieu le Père dans l'Ancien Testament, Dieu le Fils dans le Nouveau, et à partir de la Pentecôte, Dieu le Saint-Esprit. Qui enseigne ça aujourd'hui? Les témoins de Jéhovah. Alors, il ne faut pas penser que c'est des choses qui sont terminées. Une autre église qui enseigne ça, c'est l'Église pentecôtiste unie. Aux États-Unis, je pense qu'il y a un peu partout dans le monde. Eux aussi, ils ont une doctrine modaliste comme ça, qui parle à peu près les mêmes idées qu'on vient de vous dire là. Et la 4e erreur, c'est l'arianisme. L'arianisme, c'est que Arius, c'est une personne qui a vécu au 4e siècle, enseignait que Dieu le Fils a été créé par Dieu le Père à un moment donné. Le Créateur, Jésus était le Créateur, avec le Père et le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir été créé. Si tu enseignes que Jésus a été créé, tu viens d'enseigner une hérésie. Mais ce n'est pas une hérésie, ah, ben, c'est pas grave, c'est sa compréhension, puis moi, amen. Non! C'est que si tu crois ce qu'ils disent là, que Jésus a été créé, tu es en train de nier sa divinité, à quelque part. Alors, pour eux, ils disent que le Fils a été créé par Dieu le Père à un moment donné, et qu'avant ce moment-là, le Fils n'existait pas. Co-éternel, qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, avec le mot qui est vos 3 petits co-e, vous êtes capable de détruire ça. Alors, les témoins de Jéhovah sont des Ariens des temps modernes. Alors, on va aller regarder un petit peu une explication de ce que c'est, 2e point, l'explication de la triunité de Dieu. Alors, les enseignants de la doctrine et de la parole de Dieu, on ne parle pas assez. Tenter d'utiliser des analogies pour essayer de simplifier ou de mieux faire comprendre aux hommes la doctrine de la Trinité. On a utilisé toutes sortes d'images. Par exemple, on a dit, on veut comparer la Trinité à un trèfle à trois feuilles. On ne rentrera pas dans les détails de tout ça, parce que dans les livres de théologie, il y en a qui ont fait ça, si quelqu'un est intéressé d'aller voir ça, mais je vous le dis d'avance, c'est une perte de temps. Alors, ils ont le trèfle à trois feuilles, ou l'arbre, on prend un arbre, et on dit, ça ressemble à les racines, le tronc et les branches. Ils ont utilisé aussi les trois états de l'eau. L'eau existe sous forme d'eau, de vapeur et de glace. Ils ont utilisé aussi l'expérience humaine en disant, c'est possible qu'un homme soit à la fois fermier, à la fois maire de sa ville et à la fois ancien dans son église. Bien sûr que c'est entendu, mais c'est boiteux au bout là, pour expliquer la doctrine de la Trinité. Alors, toutes ces analogies-là sont boiteuses et sont fautives. Vaut mieux ne pas les utiliser parce que ça peut t'amener à des erreurs graves. Il est préférable de conclure qu'aucune analogie ne convient vraiment pour enseigner la Trinité et que toutes les analogies qu'on pourrait trouver sont susceptibles de nous induire grandement en erreur. Autrement dit, il vaut mieux rester humble et dire « je ne comprends pas comment ça se fait ». Demande-moi pas de te l'expliquer, je ne suis pas capable. Les chrétiens n'ont jamais été capables de tous les siècles parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ça, ils dépassent. Le théologien Louis Burkhoff, qui est bien connu dans les milieux anglophones, voici ce qu'il dit là-dessus, sur ce sujet-là, je le trouve particulièrement sage. Il dit « la Trinité est un mystère. L'homme ne peut ni comprendre ni rendre intelligible un tel concept. Nous pouvons appréhender d'une manière intelligible certaines relations et certains modes de manifestation de la Trinité, mais pas sa nature essentielle. C'est la relation existant entre les personnes divines au sein de la Trinité qui pose un problème, et cela, l'Église ne peut l'effacer. Elle ne peut qu'essayer de formuler une définition appropriée. » C'est exactement ce que les pères baptistes ont fait avec la 1689. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de dire dans ces grandes lignes qu'est-ce que c'est, mais sans tenter de l'expliquer exhaustivement. Alors, il parle de l'Église, il dit « Elle n'a jamais tenté d'expliquer le mystère de la Trinité, mais uniquement cherché à en formuler la doctrine de manière à écarter les erreurs qui la menaçaient. » Alors, ça, c'est le théologien Louis Burkhoff qui dit ça. Puis, il rajoute aussi « Lorsque nous réfléchissons spécialement aux relations entre les trois personnes de l'essence divine, nous ne disposons de plus d'aucune analogie. Nous réalisons que la Trinité est un mystère bien au-delà de notre compréhension. » Et ce n'est pas le seul. Parce que quand on se met à étudier la théologie de façon profonde, la doctrine, ça en est une. Il y en a d'autres doctrines qui sont aussi profondes. Parce que quand on va rentrer dans l'autre doctrine qui vient après, on va rentrer dans la doctrine du décret de Dieu. Vous allez voir que ça rentre aussi profond que ça. Et là, encore une fois, il faut y aller avec la foi. Alors, le troisième point qu'on va regarder, c'est la pertinence de la triunité de Dieu. Alors, la théologie Wayne Grudem, c'est un livre qui a été écrit sur la théologie en français, c'est un réformé, qui s'appelle « Théologie systématique » aux éditions Excelsis en 2010, à page 255, il résume très bien la très grande importance de la doctrine de la Trinité. Il dit « Pourquoi l'Église s'est-elle autant intéressée à la doctrine de la Trinité? Est-ce réellement essentiel de croire à la pleine divinité du Fils et du Saint-Esprit? » La réponse, c'est oui. Oui, c'est essentiel. Parce que cet enseignement-là a des implications sur l'ensemble de toute la théologie. Et c'est ça qu'on va regarder. On va en regarder 6 implications. Autrement dit, si tu te trompes dans la doctrine de la Trinité, ça va être quoi les implications que ça va avoir sur le reste de toute la théologie? Alors, la première, c'est l'expiation. L'expiation, c'est le fait que Jésus a subi le châtiment que nous aurions dû subir, il a pris notre place, et qu'il a accompli à la perfection la loi que nous aurions dû accomplir, il le fait encore à notre place, l'expiation. Si Jésus n'est qu'un être créé, et non pleinement Dieu, alors il est difficile de voir comment une simple créature a pu supporter toute la colère de Dieu contre l'ensemble des péchés de tous ses élus. Autrement dit, une seule personne n'aurait pas pu subir l'ensemble du châtiment divin. Il aurait pu le prendre juste pour lui-même. Il n'aurait pas pu le prendre pour les millions de personnes d'élus qui ont été sauvées. Alors, la divinité de Jésus était importante pour qu'il soit capable de supporter la colère divine. Et il le faisait non seulement pour sa propre personne, mais il le faisait pour toutes les personnes qui, éventuellement, croiraient en lui. Alors, en premier, l'expiation, autrement dit, la doctrine d'expiation, qui est une doctrine plus que fondamentale. Si Jésus est juste une créature, oublie ça. Oublie ça. Deuxième conséquence que ça l'amène, ce qu'on appelle la justification par la foi. On vient d'en parler un petit peu, l'expiation. Justification, ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu peut dire de n'importe quel d'entre nous qui est un véritable croyant, qu'on est des justes? On a fait une multitude de péchés dans nos vies. Pourquoi Dieu peut dire de moi, je suis juste, j'ai fait une multitude de péchés comme vous en avez fait vous-même? Pourquoi Dieu peut dire que tu es juste? Parce que tes péchés, il les a fait porter par une autre personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et les exigences que Dieu demandait à chacun d'entre nous, soit la parfaite obéissance à la loi, au décalogue, aux 10 commandements, que vous ayez eu jamais un seul manquement durant toute votre vie. Qui a fait ça? Personne. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, oublie la justification aussi. Autre conséquence, si Jésus n'est pas Dieu, est-il légitime de le prier? Dieu dit qu'on ne doit prier que Dieu seul. Alors, s'il n'est pas Dieu, puis tu pries, qu'est-ce que tu es en train de faire? De l'idolâtrie, tout simplement. Quatrièmement, si quelqu'un enseigne que le Christ est un être créé, mais qu'il nous a néanmoins sauvés, il attribue le mérite du salut à une créature plutôt qu'à Jésus qui est divin. Cinquièmement, l'indépendance et la nature personnelle de Dieu sont en jeu. S'il n'y a pas de Trinité, alors il n'y avait pas de relation interpersonnelle au sein de l'être de Dieu avant la création. Et sans relation personnelle, on voit mal comment Dieu pourrait être réellement personnel ou ne pas avoir besoin de créer des êtres personnels pour entrer en relation avec eux. Autrement dit, on l'a déjà vu, ça. Dieu, vu qu'il existait en 3 personnes de la Trinité, il n'avait pas besoin de créer des gens parce qu'il s'ennuyait, là. Il était déjà pleinement heureux dans les relations qui existaient entre les 3 personnes. Si tu dis qu'une des 2 personnes n'est pas Dieu, soit le Saint-Esprit ou soit Jésus-Christ, tu es en train de nier les relations interpersonnelles qui existaient de toute éternité. Et la sixième, l'unité de l'univers est en jeu. S'il n'y a pas de plurité parfaite ni d'unité parfaite en Dieu lui-même, alors rien ne nous permet de penser qu'il puisse y avoir une unité fondamentale entre les divers éléments de l'univers. Le cœur de la foi chrétienne est ici clairement remis en question. Herman Bavinck, là, s'il y en a qui lisent l'anglais et qui veulent lire un bon théologien, Herman Bavinck, c'est un top. Là. Voici ce qu'il a dit, et après tout avoir étudié ça, il a dit « Athanase, c'est quelqu'un qui a vécu là, bien longtemps, mais quand même qui avait été pris dans les hérésies qu'il y avait à l'époque, qui avait défendu la doctrine de la Trinité. » Voici ce que lui il dit d'Athanase. Il dit « Athanase a compris mieux qu'aucun de ses contemporains que le christianisme se tient ou s'effondre, en anglais c'est stands or fall, avec la confession de la divinité du Christ et de la Trinité. » Autrement dit, tout le christianisme tient debout ou s'effondre dépendamment de la relation que tu donnes à la doctrine de la Trinité. Ce n'est pas une petite chose. Alors il ajoute, il dit, la confession de la Trinité est le cœur de la religion chrétienne. Toute erreur résulte, si l'on lui regarde de près, d'une compréhension erronée de cette doctrine. Alors, 2 applications qu'on fait à partir du texte d'aujourd'hui. On fait 2 applications. La foi en la Trinité est essentielle. pas de Trinité, pas de christianisme, pas plus compliqué que ça. Notre confession de foi l'exprime admirablement. Parce que la dernière phrase qui est donnée dans la confession de foi, ça dit « La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. » Nier la Trinité, c'est sombrer dans l'idolâtrie et le blasphème. Ou bien les personnes adorent le Dieu trinitaire, ou ils servent un autre Dieu et pratiquent une autre religion. 1 Jean, chapitre 2, verset 22-23. « Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Autrement dit, tu es en train de te dire que si tu te trompes sur le Christ, tu n'as pas le Père. C'est pas compliqué ça. Romains 8, verset 9. « Et vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » Deuxième application. La communion expérimentale avec la Trinité est l'âme de la religion authentique. La religion chrétienne est trinitaire, le baptême est trinitaire. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le ministère chrétien est trinitaire. On ne rentrera pas dans les explications de tout ça ce matin, là, mais c'est pour dire, il faut le voir. La troisième, c'est la communion avec Dieu est trinitaire. La quatrième, c'est que la dévotion chrétienne est trinitaire. La cinquième, c'est que la véritable unité chrétienne est trinitaire. La sixième, c'est que la conversion chrétienne est unitaire. Dieu le Père vous a choisi de toute éternité. Dieu le Fils est venu faire la rédemption sur la terre. Et Dieu le Saint-Esprit vous a régénéré à un moment donné dans votre existence. C'est trinitaire. Et l'autre, c'est que la persévérance chrétienne est trinitaire. Combien d'Écritures nous donnent le rôle du Père dans le maintien de notre salut, le rôle du Fils dans le maintien de notre salut, le rôle du Saint-Esprit dans le maintien de notre salut. C'est essentiel. Alors que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soient bénis, loués et adorés éternellement. Amen.